Radio Django. Vivre à Lausanne.
Bonsoir Samuel.
Bonsoir Fabien.
Il est 18h passé de quelques instants et si je regarde par la fenêtre du studio, je devrais voir la nuit. Bon, c'est presque le cas. Mais nous sommes en plein Lausanne. Un citadin ne connaît pas vraiment la nuit. Est-ce qu'elle est menacée, cette dite nuit ?
Oui, alors l'obscurité de la nuit est en effet menacée. Allez voir des photos satellites de la planète la nuit, ça brille sur tous les continents. Aux États-Unis, en Europe, on a même 99% des habitants qui passent leur nuit dans la lumière artificielle, selon l'Atlas mondial de la pollution lumineuse. Alors, en Suisse, l'obscurité a disparu du plateau depuis une vingtaine d'années. Et la nuit, le ciel nocturne est éclairé jusqu'à plus de 2000% dans les villes. Même dans nos montagnes, l'obscurité naturelle a disparu selon l'association Dark Sky.
Bonsoir Eliott Guéna.
Bonsoir.
Vous êtes représentant en Suisse romande de cette association qui se bat pour le retour de la nuit noire. En quoi cette lumière nocturne vous pose-t-elle problème ? Pourquoi considérez-vous que c'est une pollution ?
Alors, il y a plusieurs aspects qui nous permettent de dire que la pollution lumineuse, qu'on nomme toute source de lumière qui ne finit pas utile, c'est-à-dire qui est diffusée dans l'environnement ou qui gêne votre voisin, il y a plusieurs aspects. Donc, j'ai cité les voisins qui sont éclairés dans leur salon par le lampadaire dans la rue. Puis, à plus large échelle, on a la campagne qui est éclairée par un halo lumineux généré par les localités, les villes, les villages, etc. Et finalement, cette lumière que nous, en tant qu'êtres humains, on ne nommerait pas forcément une pollution, pour beaucoup de faune, eh bien, c'est une pollution significative. Disons, il y a beaucoup d'animaux qui n'ont pas attendu d'avoir de la lumière la nuit pour s'adapter et bien voir la nuit, voir de manière claire, simplement avec une petite lune. Mmh. Et quand on arrive avec une grande ville, on crée un halo lumineux autour des agglomérations qui finalement rendent l'obscurité complètement lumineuse et gêne une grande partie de la faune.
Alors, par exemple, c'est les oiseaux migrateurs, notamment vous évoquez le halo des villes, qui peuvent être prisonniers de ce halo et finir mourir d'épuisement ou se projeter contre des façades très éclairées, c'est ça ?
Exactement. Les oiseaux migrateurs sont un exemple typique. Ils s'orientent, en fait, le long de leur voyage avec les lumières naturelles, qui sont la lune et les étoiles, qui ne sont censées ne pas bouger lorsqu'on se déplace, parce qu'elles sont à l'infini, elles sont très très loin. Et quand on vient placer des sources de lumière artificielles qui sont forcément proches de ces oiseaux, eh bien, ils vont mécaniquement se mettre à tournoyer autour de ces lumières, en pensant aller toujours dans la même direction. Et finalement, ils brûlent des réserves d'énergie qui auraient été bien utiles pour continuer leur voyage, ils perdent du temps et affectent simplement leur vie naturelle.
Alors les oiseaux migrateurs, on n'en a pas forcément conscience. En revanche, les insectes, on peut en avoir une expérience assez immédiate quand on allume un lampadaire extérieur ou une lampe devant sa maison. On voit les insectes qui tournoient autour de la source lumineuse. Donc c'est aussi un facteur de disparition des insectes.
Exactement, exactement. Donc ça, c'est, comme vous l'avez dit, une expérience facile à faire chez soi avec ces insectes qui restent collés autour des sources lumineuses pour la même raison que les oiseaux migrateurs. C'est le même mécanisme d'orientation avec des lumières extrêmement loin qui est derrière. Et puis, finalement, les insectes, alors, on n'y est pas très sensible. C'est plus facile d'avoir des sentiments pour un animal de compagnie que pour les insectes qui sont vraiment pour nous en bas de la chaîne. Mais finalement, ces insectes, ils sont en bas de la chaîne alimentaire aussi. Et si on affecte ces populations d'insectes, c'est toute la chaîne en amont qui est affectée. Et à l'échelle d'un pays comme la Suisse, qui est relativement industrialisée sur le plateau, ben ça fait des millions, voire des milliards d'insectes qui sont tués chaque nuit en été lorsque l'activité est maximum.
Alors, au niveau humain, on a aussi des conséquences assez importantes sur le rythme circadien notamment et la production de mélatonine qui est empêchée par la luminosité forcée de la nuit. Hein.
C'est ça. C'est des aspects qui ont été étudiés plus récemment, notamment en Suisse, à Bâle et à Berne. Donc, la mélatonine est une hormone qui est sécrétée naturellement par le cerveau pour activer le sommeil, en gros. Et le fait d'avoir de la lumière artificielle, notamment qui contient du bleu, qui atteint l'œil, cette sécrétion de mélatonine est supprimée. Et donc, ça affecte votre rythme circadien, votre rythme du sommeil. Et puis, à long terme, des études ont montré qu'il y avait une corrélation entre le niveau d'éclairage artificiel et l'occurrence de certains types de cancers, style prostate ou cancer du sein.
Alors, vous dressez un tableau plutôt alarmant. Pourtant, le 21 novembre dernier, le Conseil fédéral a renoncé à protéger la faune de la pollution lumineuse en refusant de modifier la loi sur la protection de la nature. Et depuis 30 ans, vous parliez tout à l'heure des insectes, on a 82% de la masse d'insectes volants en été qui a disparu. Et vous avez lancé une pétition pour élucider la disparition des insectes en Suisse. Les 165 000 signatures ont été déposées à Berne récemment. Mais demander une étude qui prendra des années avant de rendre ses conclusions, est-ce que ce n'est pas un peu perdre du temps ?
Disons qu'on n'attend pas les résultats de cette étude pour déjà bouger. Cette étude, ça cernait sur la Suisse, ça permettra d'apporter des arguments plus ciblés, mais d'autres études ont déjà été faites ailleurs et ont montré des liens. Disons qu'il n'y a pas besoin d'attendre les résultats de cette étude pour bouger. Il y a d'autres éléments qui nous signalent déjà des liens, et puis simplement par principe de parcimonie, disons qu'on va essayer d'éviter de polluer notre environnement autant que possible.
Alors sur le côté positif des choses, il y a les choses se mettent à bouger, notamment la commune du canton de Neuchâtel, le Val-de-Rue, depuis le mois dernier, éteint ses lumières de minuit à 4h45, en dehors des passages piétons. Donc ça fait quand même 17 000 habitants qui sont répartis sur une quinzaine de villages de la vallée. À Yverdon, les lampadaires des zones de villas sont éteints et se déclenchent uniquement au passage des piétons ou d'une voiture.
Qu'en est-il pour Lausanne, Samuel ?
Alors justement, je suis allé rencontrer Jean-Yves Pidoux, le conseiller communal de Lausanne, qui est chef des services industriels de la ville. Et je lui ai demandé si on verrait bientôt dans les rues de Lausanne ce genre de lampadaire à détection qui s'éclaire quand quelqu'un passe dessous.
Dans les zones densément peuplées, ça paraît très illusoire parce qu'il y a des passages extrêmement fréquents. Et donc, si on était lié à des questions de captage, là, on aurait quasiment des effets stroboscopiques. C'est un peu illusoire de penser qu'une zone très densément peuplée peut être intégralement éteinte pour être ensuite rallumée. C'est tout à fait possible d'éteindre les monuments. C'est clair que nos monuments qui sont éclairés, du genre la cathédrale, l'église Saint-François, la place de la Navigation, etc., ça ne vaut pas la peine de les éclairer quand il n'y a personne. L'éclairage, il est là pour un regard. Hein. Donc, on va évidemment cesser d'éclairer les grands monuments qu'on éclaire à des fins esthétiques.
Alors, l'activité nocturne d'une ville nécessite de la lumière, mais vous, Eliott Ganaf, vous revendiquez des nuits obscures. Est-ce que le but caché de votre association, c'est pas d'envoyer tout le monde au lit à 22h ?
Heureusement, non, je crois pas. En tout cas, je suis pas au courant si c'est vraiment le but caché. Mais il y a un principe un peu pratique. Disons que même dans une grande ville comme Lausanne, l'activité à 3h du matin n'est pas du tout la même que l'activité à la sortie des bureaux, à la sortie des écoles entre 18h et même 23h. Vous pouvez très bien faire déjà une adaptation, comme il a été dit, des monuments, de tout ce qui n'est pas inutile. Finalement, vous pouvez garder ce qui a trait à la sécurité et puis vous débarrasser de tout le reste ou d'une grande partie. Mais c'est clair que dans une ville, l'extinction totale est pour l'instant utopique. Mais d'un point de vue pragmatique, on pourrait imaginer même baisser la luminosité ambiante pour avoir quelque chose de beaucoup plus réduit qu'à 21h, au milieu de la nuit. Et puis, on est souvent surpris, en fait, l'œil humain, lorsqu'on lui laisse le temps de s'adapter à l'obscurité, il suffit d'une petite source de lumière pour voir à une dizaine de mètres, 20 mètres. Promenez-vous de nuit, vraiment dans l'obscurité, avec une pleine lune, eh bien, vous serez vraiment surpris après une quinzaine de minutes, vous voyez vraiment loin. Du coup, on pourrait imaginer avoir un éclairage à 10% de sa valeur nominale pendant la nuit. Comme ça, les fêtes tard peuvent rentrer chez eux en toute quiétude. Et puis, c'est une sorte de compromis entre une extinction totale qui est difficile en ville et puis un éclairage maximum qui est, comme maintenant, appliqué de 18h à 6h du matin.
Alors, c'est effectivement une des mesures qui ont été appliquées à Lausanne dans le cadre du plan Lumière qui a été lancé en 2013 et qui définit des temps de la nuit. Donc, l'activité à 18h pour l'hiver et puis à 1h du matin n'est pas la même. Et effectivement, qui joue sur l'intensité, la baisse d'intensité lumineuse. Également, elle définit des zones urbaines. Le flanc dans lequel on se trouve n'a pas besoin de la même luminosité que le nord de la ville à minuit. Et Jean-Yves Pidoux souligne aussi que l'éclairage, ce n'est pas qu'une question d'intensité lumineuse.
La contribution à l'identité de la ville, c'était vraiment un des axes principaux du plan Lumière, où il s'agissait de décliner les lumières de la ville en termes patrimoniaux, en termes esthétiques. Il y avait aussi, deuxièmement, dans le plan Lumière, quelque chose qui est lié à l'identité des différents quartiers, avec le fait qu'on a fait des promenades nocturnes avec des habitants qui ont dit les endroits où ils ne se sentaient pas très bien, éventuellement pas en sécurité, etc., où ils souhaitaient qu'on ait davantage de lumière. On a aussi dans le plan lumière cette différenciation entre le, disons, la lumière plus jaune des quartiers, des zones d'habitation, des zones 30, etc., et la lumière plus blanche des grands axes de mobilité, en particulier routière.
Alors, on sait que la lumière est aussi un enjeu de santé publique puisqu'elle influe sur la qualité du sommeil. C'est aussi un enjeu de biodiversité, notamment pour les oiseaux migrateurs. Et les villes ont souvent un halo lumineux extrêmement fort, qui est notamment lié aux lampes boules et puis aux lampes qui éclairent depuis le bas. Est-ce que pour cet enjeu-là, le plan lumière a mis en place certaines choses au niveau de l'éclairage public ?
Oui. Vous avez tout à fait raison, c'est très important. Il y a pas seulement la quantité de lumière, il y a la direction de la lumière. Et c'est évident que dans le plan lumière, il y a vraiment un programme affirmé de remplacement, alors des équipements, des réverbères, de façon à vraiment pouvoir orienter la lumière où elle doit être, c'est-à-dire sur le sol. Alors non seulement les lasers sont désormais interdits, ce dont on se réjouit, mais aussi tous les éclairages qui vraiment, entre guillemets, giclent vers le haut. Il faut vraiment s'efforcer de diminuer cette aberration qui consiste à éclairer là où personne n'a besoin de lumière, c'est-à-dire vers le haut.
Alors, Jean-Yves Pidou évoquait plusieurs aspects techniques comme l'installation de LED, le changement d'orientation. Dans les premiers temps où les LED sont sorties, elles sont sur le marché depuis 2012, donc c'est une technologie relativement récente, une controverse sur la lumière bleue qui était produite par les LED et qui justement bloquait cette production de mélatonine que vous avez évoquée tout à l'heure. Est-ce que ce problème technique est résolu aujourd'hui ? Ils ont réussi à mélanger les lumières pour faire une lumière plus jaune ?
Oui, alors ça c'est quelque chose qui a été résolu. Malheureusement, le mal a déjà largement été fait avec les premières communes pionnières dans le domaine de l'éclairage public aux LED qui se sont précipitées un peu sur les premières LED disponibles, qui étaient en effet très blanches, avaient une température haute qui donne un aspect blanc cru, bleuté. Et maintenant, on a des LED qui sont plus basse température, mais qui paraissent plus chaudes. Il y a cette contradiction entre la température technique et la température ressentie, donc plus jaune, et qui finalement, c'est le type de lumière que vous installeriez dans votre salon, simplement pour ne pas avoir l'air d'un laboratoire ou d'une boucherie, vous installez des lumières un peu plus jaunes, beaucoup plus conviviales. Et ces lumières-là ont moins de composantes bleues et sont moins néfastes pour l'environnement que de la lumière blanche.
Je rebondis juste sur les LED. Dans les installations de communes, on a à un niveau individuel, on connaît l'effet rebond qui fait quand une énergie est moins chère, on en met davantage. Est-ce que sur le plan des communes, on a observé le même phénomène d'une lampe moins chère à faire fonctionner, donc on installerait plus de points lumineux ?
Ponctuellement, on a observé ce genre de comportement, c'est-à-dire que puisque les LED sont censés être plus économes en termes d'énergie, on en installe plus. Il y a aussi un aspect de l'effet rebond que vous avez cité avec des lampadaires solaires, qui est quelque chose qui est en train d'arriver. Donc les lampadaires ont une petite cellule solaire avec une batterie et du coup on en installe beaucoup plus à des endroits où auparavant il n'y avait pas de lampadaire et qui survivaient jusque-là relativement bien, a priori. Et maintenant on installe de la lumière supplémentaire justifiée par l'aspect solaire qui est en fait un effet rebond typique.
On parle d'éclairage urbain ce soir et l'éclairage est souvent associé au sentiment de sécurité. Une ville plongée dans le noir pourrait être livrée aux bandits. Est-ce que ce serait vraiment le cas à votre avis ?
Alors, à mon avis, non. Et puis, cet avis est supporté par diverses expériences, notamment en France. La France a une longueur d'avance dans certaines régions par rapport à la Suisse en termes d'extinction nocturne, même des zones urbaines, ou au point où c'est l'effet inverse qui est observé. C'est-à-dire que certaines communes, ayant de la petite incivilité dans des parcs, par exemple, décident de couper l'éclairage la nuit. Et finalement, les gens qui étaient là-bas et qui commettaient ces incivilités, n'y restent plus parce que, comme tout le monde, ils ont besoin de lumière pour avoir leurs activités.
Donc si les bonnes personnes ne voient plus, les mauvaises personnes ne voient plus non plus.
C'est ça.
Ouais. Alors il y a effectivement les usagers et les chercheurs ne sont pas tout à fait du même avis sur la question. Pour Jean-Michel Deleuil de l'Institut des sciences appliquées de l'Université de Lyon, les lampadaires des zones piétonnes agissent davantage sur la perception du danger que sur sa réalité, comme vous le soulignez. Alors, j'ai demandé à Jean-Yves Pidou ce qu'il en pensait.
On est bel et bien dans une question de sentiment. Je voudrais souligner que dans la ville de Lausanne, il y a pas de criminalité qui rendrait les rues problématiques. Il y a extrêmement peu de criminalité. qui pose des véritables dangers pour les passants. Je vous renvoie aux statistiques du corps de police, mais enfin, il y a les rues de Lausanne sont extraordinairement sûres. Il y a très peu de problèmes de sécurité, il y a des problèmes de sentiment de sécurité. Et si c'est un sentiment de sécurité, si les gens vous disent qu'ils sont rassurés par la lumière, eh ben, on va évidemment mettre de la lumière, on ne va pas jouer avec leur sentiment d'insécurité. Y compris si on sait que ce n'est pas la lumière qui crée réellement la sécurité. Mais si les gens pensent, croient que c'est la lumière qui les rassure, eh ben on va évidemment contribuer à les rassurer.
Alors, Eliott Guenet, un élu va dans le sens des attentes de sa population. Qu'est-ce que vous, en tant qu'association, vous faites pour ce sentiment d'insécurité? Comment rassurer les gens sur ce noir de la nuit qui les effraie?
Alors, il y a plusieurs aspects super importants pour cet aspect de sécurité ressenti. En fait, finalement, c'est un problème de communication. Si vous regardez les communes en Suisse qui ont réussi à mettre en place une extinction partielle ou totale, par exemple le Val-de-Ru, ils ont fait un effort, un travail de communication avec la population en amont qui remonte à plusieurs années de préparation pour montrer aux gens, lors d'événements sociaux, par exemple des fêtes de la nuit, qu'en fait, l'obscurité n'est pas si effrayante que ça. C'est quelque chose de vraiment culturel. On est un peu éduqué à avoir peur de la nuit. C'est peut-être justifié ou non, je pense que ce ne l'est pas. Mais il y a vraiment un travail de communication pour montrer à la population que finalement, l'obscurité n'est pas si effrayante que ça, n'est pas liée à de l'insécurité, que ce soit physique ou criminelle. Et finalement, ce n'est pas une perte de qualité de vie, mais au contraire, un gain significatif.
Bon, ben voilà, on va essayer de s'éclairer la bougie. Pourquoi pas en cette période de Noël? C'est une bonne solution, ça.
C'est très romantique.
C'est très romantique, en tout cas. Voilà. On aura un pic de natalité dans 9 ans, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ce sera de votre faute, certainement. Merci beaucoup, Eliott Guenet, d'être venu nous parler ce soir de cette question de pollution lumineuse. Une bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes représentant suisse romand de l'association Dark Sky. On remercie également Jean-Yves Pidou, conseiller communal de Lausanne, que tu as rencontré pour nous, Samuel. Et merci à toi pour la préparation de ce dossier. Un sujet et un dossier à retrouver sur notre site www.django.fm.
Me begrüßen zelle tasseren alle Be fitzuma katen menageras be Antin sasta wusich in vaye gemeta Ehelu hatella gepa sta Minte te ke mialesh bimot vanti fikere Hey abren in nehun mamenta tishikere Minti teke mialesh bimut vanti fikere Hey abren in nehun mamenta tishikere Fikrish my bel na lai tawuko ma kose hulu te sasa teni. Fikrish my bel na lai tawuko ma kose hulu te sasa teni. Fikrish sen selet ta serena lepe. Fikrishuma kateni menagerasipe. Antin sasta wusich in vaye gemeta Ehelu hatella gepa stata Sasa teñu, befikrish my bel, na lai tawuko, ma kose
De la musique éthiopienne proposée par Boris, notre technicien et programmateur musical de ce soir. Alors je vais me taire tout simplement pour pas vous dire le titre ni l'artiste parce que je serais totalement et bonnement incapable de le dire. Il y a trop de chiffres, trop de lettres, enfin c'est des caractères impossibles. Je vous laisserai regarder directement sur notre site www.django.fm. 18h23, La Rose des Vents.